Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour Deep Impact, le podcast tennis d'Eurosport. Je suis Sébastien Petit et à mes côtés, notre consultant tout terrain et tout dédié, Arnaud Di Pasquale.
Salut Seb.
Cette semaine, émission spéciale avec un invité de marque, Paul-Henri Mathieu, récemment nommé capitaine de Coupe Davis de l'équipe de France, avec lequel nous parlerons de ses chantiers qui l'attendent avec le tennis français en 2024, de la génération tricolore qui pousse à vue d'œil, et enfin de Novak Djokovic, le master chef modèle parmi les modèles. Deep Impact est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. Les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti! Bonjour Paul-Henri Mathieu, merci d'avoir accepté d'être l'invité de Deep Impact. Nous vous avions quitté directeur du haut niveau à la direction technique nationale de la Fédération française de tennis, fonction remplie depuis mai 2021. Vous voilà désormais capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis et responsable de la délégation masculine des JO de Paris 2024. Est-ce que vous attendiez que ça aille aussi vite ?
Tout d'abord, bonjour à vous. Est-ce que je m'attendais que ça aille aussi vite ? Pas forcément. C'est vrai que quand j'ai intégré la fédération il y a 2 ans et demi, voilà, j'avais comme mission effectivement d'être directeur de haut niveau, surtout sur la partie masculine, de recréer des liens avec les joueurs. Et quelques mois après, il y a Sébastien Grosjean qui m'a demandé de rejoindre le staff de l'équipe de France en tant qu'entraîneur. Donc j'avais un lien encore plus poussé avec tous ces joueurs-là. J'avais pas du tout en tête de devenir capitaine parce que j'avais mes missions bien prédéfinies et qu'il y avait un capitaine en place. Ensuite, suite au départ un petit peu surprise hein, de Sébastien, on s'y attendait pas vraiment. Voilà, pour moi, c'était une continuité qui avait beaucoup de sens et effectivement, j'ai tout de suite montré mon intérêt pour le poste. Parce que ouais, c'est quelque chose qui me tentait vraiment. Et il y avait, comme je l'ai dit, une vraie continuité dans ce que je faisais par le passé.
Évidemment, j'imagine. Alors, tu te serais peut-être positionné si tu n'avais pas été entraîneur, mais c'est vrai que ça aurait été très différent, j'imagine. Je pense que là, c'est aujourd'hui, c'est cette connexion que tu as créée quand même ces derniers temps avec les joueurs qui t'ont poussé, toi, probablement quand même, à te dire que bah, tu étais légitime, que tu avais les épaules. Enfin, je pense, j'imagine que sans ça, et c'est vraiment la question, est-ce que sans ça, tu te serais quand même vraiment positionné? Ou c'est justement le fait d'avoir été aux côtés de Seb?
Non, je pense que d'avoir été aux côtés de Seb aussi, ça m'a déjà redonné énormément d'envie d'être en équipe de France. Forcément, j'ai des souvenirs qui ont été très, très forts en tant que joueur. J'ai décidé aussi de rejoindre la fédération il y a 2 ans et demi et de m'engager à plein temps. Voilà, j'ai eu beaucoup d'hésitations avant de me lancer dans ce projet-là parce que c'est très prenant. J'ai eu besoin de couper quand j'ai arrêté ma carrière en 2017 pour prendre vraiment beaucoup de recul. Je ne savais pas du tout si un jour j'allais me relancer dans le milieu tennistique, en tout cas avec autant d'intensité et autant de passion comme je le fais depuis 2 ans et demi. Et voilà, comme je l'ai dit, voilà, pour moi, c'est une suite, pas logique, mais c'est le lien, comme tu dis, Arnaud, que j'ai créé aussi avec les joueurs qui m'ont donné envie de plus. Et quand j'ai intégré l'équipe en tant qu'entraîneur, eh ben, j'ai eu envie de plus. Et effectivement, peut-être que ça me trottait dans la tête en me disant que si Seb arrêtait après les Jeux 2024, que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Voilà, ça me serait pas venu à l'esprit pendant que Sébastien était en place, bien évidemment. Voilà, là, c'était effectivement une opportunité qui s'est présentée à moi et j'en ai eu l'envie profonde, effectivement, voilà, de postuler pour ce poste-là parce que je suis fier de pouvoir continuer le lien que j'ai créé avec les joueurs. Voilà, même si je suis assez proche comme de la plupart d'entre eux, il y a différentes générations, on pourra en parler, c'est hyper intéressant justement d'avoir ce mélange de générations, ils peuvent tous s'aider les uns et les autres. Voilà, tout ça combiné, ben, voilà, ça m'a fait monter un petit peu l'envie et le désir de postuler pour ce poste-là.
Mais les joueurs ont clairement montré un intérêt, sinon vous ne seriez pas là.
C'est pas, c'est pas à moi de dire si les joueurs étaient derrière moi ou pas. Bien évidemment, j'ai créé des liens avec certains. On a plus d'affinités plus avec certains qu'avec d'autres. Voilà, j'ai toujours été aussi neutre hein, et j'ai essayé d'aider le plus de joueurs français possible dans mon rôle qui était le mien il y a ces 2 dernières années. Voilà, bien évidemment, si j'avais, et ça c'est clair, si j'avais senti aucun soutien de qui que ce soit et si je ne m'en sentais pas légitime, jamais voilà, je me serais permis de postuler pour le poste.
On a vu que Joey Fritzanga et Gilles Simon aussi avaient une volonté d'entrer dans la danse, hein, avec l'appui aussi de certains joueurs. Est-ce que à un moment, il y a un rapprochement entre vous qui a été envisagé ou pas du tout?
Voilà, c'est un petit peu tôt. Je viens d'être nommé. Je pense qu'il y a eu plusieurs candidats, ben, plus que légitimes aussi pour ce poste. Voilà, c'est aussi une question un peu de timing, d'opportunité. Voilà, moi, je suis très fier et honoré d'avoir été choisi être le prochain capitaine et de suivre cette équipe en plus en vue des Jeux l'année prochaine. Ensuite, voir quel rapprochement on peut avoir. Il faut voir, mais bien évidemment, Gilles, Joe ou d'autres ont énormément de choses à apporter au tennis français, donc d'une manière ou d'une autre, qui s'investissent pleinement voilà, pour aider nos joueurs, nos joueuses. Je trouve ça assez fantastique et je trouve ça très bien aussi qu'ils aient montré leur intérêt de vouloir s'investir aussi plus. Voilà, c'est aussi une force collective qu'on a et qu'il faudra essayer de développer par la suite.
Vous étiez entraîneur de l'équipe de France depuis un certain temps, d'où la continuité dans le rôle. Est-ce que vous avez déjà une idée de l'équipe qui sera autour de vous ou est-ce que c'est encore trop tôt?
C'est toujours un peu tôt pour affirmer qui sera là. Bien évidemment, j'ai des idées. J'ai besoin encore d'en discuter, de me poser, de laisser aussi retomber, de laisser retomber tout ça et de penser à être refroidi. Et je pense que
D'accord.
c'est important. Mais oui, j'ai des idées. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est clair, c'est que j'ai besoin de prendre un entraîneur parce qu'il n'y en a plus.
C'est ça.
Ensuite, voilà, ensuite on verra, mais oui, je vais devoir me décider de toute façon très rapidement parce que ben, les échéances sont assez proches. Le timing est très serré.
Mais là, tu gardes ta casquette de directeur du haut niveau en plus.
Non, non,
D'accord.
non, non.
Donc là,
La question.
pareil, il va y avoir du changement de ce côté-là.
Bah, le directeur de haut niveau aujourd'hui, c'est Ivan qui sera seul aux commandes. Voilà, moi, j'ai un rôle de capitaine et représentant de la délégation en vue des Jeux pour la partie masculine. Voilà, et j'ai un rôle vraiment à plein temps. Donc, bien évidemment, s'il y a d'autres missions à faire, bah, ce sera Ivan qui me les donnera auprès des plus jeunes. Au sein du CNE ou autre. Après, je pense qu'avec l'année des Jeux, elle sera assez chargée. Déjà, il y a l'Australian Open, ensuite il y a la Coupe Davis. Ensuite, bien évidemment, j'avais prévu d'être assez présent sur les tournois en vue de Paris 2024 pour vraiment avoir ce lien-là avec les joueurs. Donc, ça sera une année forcément assez chargée en 2024.
Quand vous dites à temps plein, ça veut dire d'être sur tous les gros tournois, c'est ça?
Ben, tous les gros tournois et plus à avoir. Ça a été aussi un souhait apparemment des joueurs et des entraîneurs d'avoir un capitaine avec un lien fort et d'avoir un capitaine ben, complètement disponible pour eux. Donc voilà, donc c'est la recommandation aussi qu'ils ont suivie. Moi, ça ne change pas énormément de choses parce que de toute façon, j'étais à temps plein avant au sein de la fédération. Donc, je continue les missions que j'avais avant avec ces joueurs-là et de manière encore un petit peu plus poussée.
C'était pas spécialement le cas pour Sébastien Grosjean.
Sébastien Grosjean, il faisait une vingtaine de semaines. Ouais. Vingtaine de semaines. Voilà, aujourd'hui, ben, moi, j'en ferai certainement un petit peu plus. Un petit peu plus. Après, on a quand même un panel de joueurs très élargi. Aujourd'hui, on a énormément de joueurs sur le circuit. C'est parce qu'un joueur aujourd'hui est 120e, 130e, même 150e, qui ne peut pas être 50e dans 6 mois. Donc c'est important, voilà, d'avoir une vue globale de tous ces joueurs-là, d'être en lien quand même assez régulier avec eux et avec leur entraîneur.
Okay. Donc vous êtes désormais capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. C'est un rôle Pas simple quand même, parce que vu le format actuel qui déchaîne pas vraiment les foules et le creux générationnel dans lequel le tennis français était tombé. Alors je dis bien était parce que on a l'impression que cette saison, la machine semble repartir. Comment jugez-vous la saison des Français sur le circuit?
Alors, la saison est plutôt bonne, forcément, on a envie de toujours plus. Et je pense qu'il faut se remémorer où on était il y a 1 an et demi, 2 ans. Quand on parlait des Jeux Olympiques à Paris, on avait peur de ne pas remplir le quota. Aujourd'hui, voilà, sans prendre énormément de risques, on sait qu'on va remplir ce quota-là. L'objectif, c'est vraiment aujourd'hui d'aller chercher une médaille. Voilà, on a un vivier de joueurs qui est vraiment très intéressant. On a plusieurs joueurs aujourd'hui qui sont dans les 30 meilleurs joueurs du monde. Hein. Je pense à Hugo Humbert qui est 20e, Adrien Manarino qui est 22e. On a 12 joueurs qui sont dans les 100 premiers joueurs du monde. Ouais,
Contre
c'est
10
quelque
l'année dernière.
chose.
Ouais.
Ouais, contre 10 l'année dernière. Donc ça pousse forcément. Ben, les jeunes poussent un peu ceux qui sont devant. Les plus âgés font de la résistance. Donc je pense qu'il y a une vraie émulation entre eux qui s'est créée. Alors, en espérant que ça donne aussi envie, ben, aux plus jeunes de pousser encore plus et voilà, qu'il y ait cette émulation qui continue à perdurer, de faire monter ben, tout le monde voilà, vers le haut. Alors, on espère bien évidemment que la plupart des joueurs montent encore au classement l'année prochaine et qu'on arrive à avoir encore plus de joueurs dans les 100 meilleurs joueurs du monde.
Les Français ont décroché 7 titres cette année, c'était l'une des marques records. Enfin, c'est la troisième saison la plus prolifique même depuis le début de l'ère Open. On a l'impression que il se passe un truc quand même.
Oui, non, il se passe un
Oui.
truc. Alors, vous parlez de 7 titres. Alors, on veut toujours des titres ouais, de tournois plus importants. Alors, j'espère que ça va venir dans les années à venir. Après, il y a aussi eu 27 titres, hein, il me semble, dans les tournois Challenger. C'est quelque chose
Oui,
d'énorme et c'est
c'est
un
un record aussi.
record.
Ouais.
C'est un record et je pense qu'il faut le souligner parce que ça montre qu'il y a quand même énormément de joueurs qui sont derrière et qui poussent. Tous les joueurs se connaissent très, très bien. Donc, quand ils voient le copain effectivement gagner un 250 ou monter au classement ou intégrer le top 50, ils disent ben, pourquoi moi je pourrais pas y arriver. Donc, voilà, c'est de cette émulation que je parle et qui est, je pense, très bénéfique pour les joueurs. C'est pour ça que j'ai envie d'être confiant pour les années à venir. Et je pense vraiment qu'il y a de la place à prendre aujourd'hui sur le circuit. Le circuit est vraiment très ouvert. Alors, bien évidemment, il y a toujours deux, trois joueurs qui sortent un petit peu du lot, qui sont très, très forts et très difficiles à aller chercher. Mais je pense qu'il y a vraiment de la place, vraiment de la place, voilà, pour se rapprocher des 10 premiers joueurs du monde. Dans les 50 premiers joueurs du monde, il n'y a pas une énorme différence avec le centième. Donc, je pense qu'il y a de belles perspectives justement dans les prochains mois.
Sur l'émulation, on en a beaucoup parlé. Moi, je pense que en même temps, ça fait quand même très longtemps qu'on anticipait quand même un creux générationnel. On en a beaucoup parlé. Évidemment, il est arrivé. C'était juste une réalité. En plus, avec pas beaucoup de chance, puisqu'un Lucas Pouille qui aurait pu faire un peu la jonction, justement, s'est blessé. Il y a eu quelques. Enfin, Hugo Humbert aussi, à un moment donné, est retombé, donc il est revenu. Donc en fait, ça aurait pu mieux se passer, mais finalement, c'est vrai que ça a été une période très compliquée aussi, de manière conjoncturelle, en fait. C'est pas
C'est
facile.
vrai.
Donc c'est assez dur parce que enfin, forcément, bah, on pointe du doigt la fédération tout le temps et le travail qu'elle ne fait pas. Donc, alors que, au fond, il y a eu ce boulot de fond qui a été fait vraiment et de réamorcer la pompe. Moi, je peux en parler parce que j'ai été DTN à l'époque. Tout ça, c'était déjà des discussions que l'on avait. Je pense que les DTN suivantes même ont bossé dessus. Et aujourd'hui, quand on voit justement ce qui se passe actuellement, c'est le fruit d'un travail collectif à la fin. Quand on parle de continuité, c'est aussi le cas. Et c'est aussi une réalité. Je veux dire, tout ça avait été quand même vu, anticipé. Et aujourd'hui, il y a eu un super boulot qui a été fait ces dernières années. La preuve aujourd'hui, si on voit justement ces joueurs exploser, arriver à ce niveau, enfin, c'est qu'il y a quand même du taf qui est fait. Et aujourd'hui, enfin, moi, je trouve que, après, la profondeur du tennis français, elle existe depuis toujours. C'est ce qu'on dit aussi. Ce qu'il faut maintenant, ou maintenant, et comme sur chaque décennie, ce qu'on attend, bah, c'est chez les hommes un vainqueur de Grand Chelem. Tant qu'on ne l'aura pas, de toute façon, on continuera à grogner, ça continuera à râler. On veut des grands titres, on veut des victoires en Masters 1000. Mais ça travaille pour, il y a des Arthur Fils, des Lucas Van Hache, pardon, et pourquoi pas un Hugo Humbert qui progresse énormément. C'est génial. Donc, il faut se servir de ça. Je pense que ça décomplexe aussi vraiment les autres derrière. C'est pour ça qu'il y a autant de victoires en Challenger. Il y a des jeunes qui se disent que c'est possible et ça pousse. Et on peut avoir de très, très belles surprises. Et ouais, l'année prochaine, on a hâte quand même d'y être, même s'ils sont encore un peu jeunes, mais ça peut aller très vite. On l'a vu pour d'autres, pourquoi pas pour les nôtres aussi.
Mais est-ce qu'une victoire en Grand Chelem, ça doit vraiment être un objectif?
Pour nos joueurs français? C'est difficile. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, quand on se présente sur un tournoi, c'est pour essayer d'aller au bout. C'est clair. Je pense qu'on a quelques joueurs français qui sont très, très ambitieux. Ils l'ont dit ouvertement. C'est bien qu'ils le soient. Que ça soit un objectif ou une pression supplémentaire qui se mette, je ne le pense pas. Je pense que s'ils continuent à travailler, si le plus important maintenant, c'est d'avoir de la constance aussi toutes les semaines dans le travail, dans les résultats. Et ils pourront l'avoir un petit à petit un objectif. Je pense de l'avoir un objectif dès le mois de janvier en disant voilà, je veux gagner l'Australian Open ou mon objectif c'est gagner le Roland Garros. C'est peut-être un petit peu prématuré, peut-être. Ensuite, je pense qu'il faut se limiter à rien. C'est vrai qu'on a des joueurs qui sont, comme je l'ai dit, très ambitieux et c'est bien d'avoir ces joueurs-là. Je pense qu'il faut ne pas leur donner de limites, voilà, vraiment qu'ils puissent donner le maximum d'eux-mêmes sur le court sans limite. Donc déjà, si on arrive à voir des Français à nouveau en deuxième semaine, ça fait un moment qu'on n'en a pas eu, je pense qu'on serait content. Et ensuite, ben pourquoi pas, effectivement, dans un avenir assez proche, avoir un jour un vainqueur du Grand Chelem à nouveau, ça serait quelque chose de fantastique. Mais comme l'a dit Arnaud, effectivement, tant qu'on n'aura pas à nouveau un vainqueur du Grand Chelem chez les garçons, on dira, mais qu'est-ce que la fédération fait? C'est clair. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être envisageable, en tout cas, dans les prochaines années.
Alors qu'il y a quand même entre 10 et 15 Français par an depuis 30 ans dans le top 100. Et
Oui.
ça, c'est jamais mis en avant. Parce que justement, on attend ce qui brille, on attend la plus haute marche du podium, on attend celui qui va lever la coupe. Mais il y a aussi ce travail de fond qui est quand même très costaud, enfin, et surtout avec une régularité incroyable. Ça, c'est quand même aussi une réalité. Et enfin, je sais pas, je trouve qu'on le met très très peu en avant. Et je trouve qu'après, quand tu poses la question, est-ce que ça peut être un objectif? Évidemment que la Fédé doit absolument passer le message du fait que tout est possible, évidemment, et qu'on doit aller le plus loin possible. Mais après, à un certain niveau, quand on arrive au niveau d'Arthur Fils, c'est ses tripes à lui, hein, c'est plus la
Non, mais
Fédé, c'est lui qui doit s'envoler, c'est lui qui doit investir,
c'est
c'est
exactement
son
ça.
projet.
C'est un projet personnel. Ensuite, c'est ce qu'il a au fond de lui, les tripes, jusqu'où il veut aller, qu'est-ce qu'il est prêt à faire comme sacrifice pour aller tout en haut. Voilà, ça dépasse le cadre, j'ai envie de dire, fédéral. Le but de la fédération, c'est d'emmener effectivement les joueurs sur le bon chemin. Et ensuite, comme l'a dit et très justement Arnaud, c'est à eux d'investir. C'est à eux d'investir, de montrer qu'ils ont envie de plus. Et c'est leur projet, ils doivent s'approprier leur projet.
Et ils se doivent aussi d'être locomotive, peut-être pour les autres. On parlait aussi de ça en termes d'émulation. Arthur Fils et Hugo Humbert aussi, maintenant qu'il est dans le top 20, doivent-ils apporter aussi cet entrain pour que les autres en fait puissent prendre aussi appui sur eux?
Oui, mais je pense qu'ils le font. Aujourd'hui, ils le font parce que par leur classement, par leur évolution cette année, ces derniers mois, en montrant qu'ils investissent aussi dans leur staff, qu'ils sont très bien entourés par leurs résultats, forcément, ça donne envie aussi aux autres derrière de les suivre. Et aujourd'hui, je pense clairement qu'ils servent d'exemple.
J'ai cru comprendre que vous vouliez aussi introduire du travail avec des datas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus?
Non, alors avec des datas, oui, c'est pousser un petit peu plus effectivement le point un peu statistique qui est énormément présent sur le terrain, enfin en tout cas sur le circuit depuis maintenant quelques mois. Voilà, on a créé un partenariat aussi avec quelqu'un qui s'occupe de statistiques assez précises qu'on met à disposition pour tous les joueurs et joueuses françaises lors des tournois du Grand Chelem. Alors on voudrait aussi pousser ces datas-là et ces statistiques un petit peu plus loin. Parce que maintenant, avec le Hokkaï qui est arrivé sur tous les tournois, ça permet d'avoir des statistiques beaucoup plus précises. Alors, au-delà des vitesses de balle, de toutes les zones jouées, la vitesse à laquelle on se déplace. Donc voilà, il y a un vrai chantier qui est en cours. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser qui peut être vraiment intéressant pour les joueurs, pour les entraîneurs et pour toutes les personnes encadrant les joueurs. Donc ça mérite d'être poussé un petit peu plus loin.
La Coupe Davis l'année prochaine, on sait que si ça peut être apporter beaucoup d'émulation aux joueurs français, ça a apporté beaucoup de joueurs mondiaux sur le devant de la scène. Est-ce que ça, c'est aussi un levier de motivation que vous allez pouvoir actionner?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, tous les joueurs qui sont dans l'équipe et qui sont potentiellement sélectionnables ont l'amour du maillot. Voilà, il y a une très bonne ambiance qui s'est créée, une très bonne émulation, comme je l'ai dit, entre tous ces joueurs-là. Voilà, malheureusement, cette année, ça s'est mal goupillé. Alors, ça se joue chaque fois à quelques détails. On a eu des balles de match pour se qualifier pour la phase finale, mais la défaite face à l'Angleterre a été très difficile à avaler pour tout le monde. Voilà, ils veulent forcément plus, plus après. Ils ont cet amour du maillot, ils ont envie aussi de jouer à la maison. Donc, j'espère qu'on va pouvoir jouer à la maison au mois de février. Alors, on sait que les premiers tours sont encore sous l'ancien système home and away. Voilà, donc non, par rapport à ça, j'ai aucune inquiétude. Et ensuite, c'est aussi une année olympique. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs aussi qui rêvent de pouvoir jouer les Jeux olympiques à la maison. Bah, c'est une chance unique aujourd'hui qu'ils ont de participer aux Jeux à Roland-Garros devant leur famille et de pouvoir éventuellement gagner une médaille.
On ne connaît pas encore hein, l'adversaire des Français en février.
Non, alors on va le connaître le week-end prochain. Ouais. Donc il me semble que c'est soit la veille de la finale ou le jour de la finale.
D'accord. Et à côté de la Coupe Davis, donc l'enjeu majeur de la saison, ça sera bien évidemment les JO, comme vous en parliez. L'objectif médaille est clairement établi, ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et quel sera le plus gros chantier alors pour y arriver?
Bah, le plus gros chantier, c'est que. Alors, il y a plusieurs chantiers. Déjà, il y a on peut parler du double. Du double, parce qu'on a une chance de médaille, effectivement, aujourd'hui en double. Parce que, bah, on a un joueur qui est dans les 10 meilleurs joueurs du monde, qui va certainement jouer avec Nicolas. Enfin, donc, je parle d'Edouard Roger-Vasselin, qui va certainement jouer avec Nicolas Mahut l'année prochaine. Donc, ils vont mettre toutes les chances de leur côté, effectivement, avec comme objectif les Jeux Olympiques. Voilà, donc c'est déjà une bonne chose qu'ils puissent jouer ensemble tout au long de l'année. Ensuite, c'est d'inciter aussi ben, les autres joueurs de simple qui potentiellement peuvent être qualifiés pour les Jeux Olympiques à jouer ensemble en double, parce qu'on espère qu'on pourra aligner une deuxième équipe en double. Et pour ça, et pour qu'ils se donnent le maximum de chances de gagner une médaille, ils ont besoin de jouer aussi ensemble. Et ensuite, ben, alors, en simple, ça va dépendre un petit peu aussi de leur classement, parce que là, ce n'est pas une sélection. C'est eux qui s'inscrivent. Donc, ça va être les quatre mieux classés. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui sont ultra motivés par ces Jeux Olympiques. Donc, eux, leur objectif, ben, c'est qu'après Roland-Garros, être dans ces quatre premiers joueurs français. Voilà, donc nous, on est là pour les accompagner, essayer de les aider s'ils ont besoin à un moment donné sur des accompagnements, que ce soit tennistique, physique ou autre. On parlait de data, mais ça peut être complètement autre chose. Donc on est vraiment, j'ai envie de dire, un petit peu à leur chevet pour essayer de ben, qu'ils remplissent leur objectif et qu'ils puissent vraiment ben, se donner le maximum de chances de se qualifier.
C'est très important ce que vient de dire Polo. Pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas une sélection, c'est une
Oui.
qualification. Mais c'est très important parce que j'en ai un peu fait les frais à Rio et il y a une confusion autour de ça. Et aujourd'hui, il y a un cut avec un tournoi en fait, dans lequel tu t'inscris et finalement, enfin, avec un classement qui sort et c'est les quatre premiers. Si aujourd'hui, tu n'as pas de différent. J'imagine, c'est un petit peu ça hein, l'idée, Polo. Si vous n'avez pas de différend avec les joueuses et les joueurs qui seront dans ce fameux cut, bah vous les prenez, quoi. Point. C'est
Exactement.
aussi simple que ça. Donc, non, non, mais après, non, sur les jeux, en revanche, enfin, je ne sais pas si ils mesurent à quel point ça doit être extraordinaire de jouer à la maison. Enfin, c'est un truc, c'est fou. Enfin, c'est une chance tellement puissante, c'est inouï. Il faut vraiment, je crois, aussi travailler là-dessus. Moi, si j'ai, tu vois, j'ai pas beaucoup de conseils à donner, encore moins de leçons. Mais en fait, il faut faire attention parce que tout le monde n'a pas la même fibre Jeux Olympiques. Et je pense que si toi, tu l'as, par exemple, si moi, je l'ai, on n'est pas tous égaux enfin, face aux Jeux Olympiques dans le tennis. Et donc, c'est quand même un truc à préparer
C'est vrai.
vraiment différemment. C'est pas comme la Coupe Davis. Où il y a un ancrage, c'est très fort depuis toujours. C'est là, c'est très présent. Les Jeux Olympiques, tu vois, on le vit tous différemment. Et je pense que voilà, ceux en tout cas qui seront, celles et ceux qui seront qualifiés, il faudra les préparer, évidemment. Mais quand je dis les préparer, c'est leur faire comprendre ce que c'est les Jeux Olympiques. Ce n'est pas un tournoi classique. Ça change tout par rapport à. Ça change énormément de choses. Ce n'est pas la Coupe Davis, ce n'est pas la Fed Cup, ce n'est pas tout ça. Et ça, il y a un vrai truc où moi, je me suis complètement fait piéger. C'est pour ça que je dis ça. Je pense que ça demande une vraie préparation très spécifique.
Donc en fait, ce sont les quatre meilleurs Français au classement après Roland-Garros, c'est ça?
Et je dis 4, sauf si on n'a que 3 joueurs dans les 60 premiers. En gros,
Oui,
le
à
cut,
partir du
c'est.
moment où ils sont classés parmi les 60 premiers.
Le cut, c'est aux alentours de la
4
65e
maximum.
place. Ouais. Mais on ne peut pas avoir plus de 4 joueurs, effectivement. Donc c'est pour ça que je dis les 4 premiers, parce que si on a 10 joueurs dans les 60, on ne peut en prendre que 4. C'est les 4 premiers.
D'accord. Et double, c'est autre chose.
Double, c'est autre chose. Alors, si on peut rajouter donc ces 4 joueurs en simple, on peut avoir 2 joueurs supplémentaires en double si un des deux joueurs est dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Donc prenons l'exemple d'Edouard Augébassin. S'il est dans les 10 meilleurs joueurs du monde, il peut effectivement choisir son partenaire pour jouer aux Jeux Olympiques, ce qui rajouterait 2 autres joueurs. Et on pourrait faire une deuxième équipe de double, éventuellement, s'il rentre dans le cut, avec les 4 joueurs de simple que nous avons sur place.
Et si jamais un joueur, comme tu disais Arnaud, ne souhaite pas participer au jeu parce que la terre battue, ça lui convient pas, vous avez, vous, en tant que capitaine et en tant que, on va dire, responsable de la
Et...
délégation, la possibilité d'en choisir un autre?
Mais
Pas
oui,
du tout.
enfin, moi, mon but, c'est de mettre personne sur le terrain
Bien
sous
sûr.
contrainte. Voilà, il faut que le
Non, mais je veux dire,
joueur.
la place ne se perd pas. C'est ça que je veux
Ah non, non, bah, la place,
préciser.
non, effectivement, si elle se perdait, ça serait dommage, très dommage. Là, effectivement, si on a des joueurs qui sont dans les 65 meilleurs joueurs du monde, si on en a plusieurs, non, la place se perdrait pas. Après, voilà, c'est une discussion aussi on parle d'Adrian que j'aurai avec lui personnellement. Voilà, il a des convictions aussi très très fortes.
Parce qu'il n'aime pas trop la terre battue,
Ouais, il
surtout
n'aime pas
pour
trop la
son
terre
capitaine.
battue, mais c'est très légitime. Tout s'entend. Voilà, mais c'est des discussions que je dois avoir avec lui. Et de toute façon, c'est aussi lui qui aura le dernier mot.
C'est difficile quand même de concevoir de tirer un trait sur les jeux parce que c'est aussi la terre battue, mais bon, on ne sait jamais. C'est jamais.
Non, mais après, comme l'a dit Arnaud, tout le monde a une approche et une vision des jeux qui est différente. Voilà, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir plusieurs discussions, et pas que moi, certainement aussi son entraîneur. Voilà, il montrait que c'est une chance aussi unique de pouvoir disputer les Jeux Olympiques, que c'est un événement qui est extraordinaire. Et on parle aussi, voilà, même si c'est Roland-Garros sur terre battue, c'est sur un format court. On a vu énormément de surprises déjà par le passé lors des Jeux Olympiques. Il peut tout se passer. Donc voilà, après, ça sera bien évidemment le choix de chacun de vouloir les disputer ou pas.
Un dernier point qu'on voulait aborder, les JO donc, seront donc à Roland-Garros sur terre battue. Les prétendants aux médailles seront nombreux. Mais le plus sérieux, parmi eux, ce sera quand même Novak Djokovic, numéro un mondial inoxydable, recordman de titres en Grand Chelem, en Master 1000, etc. Lui, il aura marqué médaille d'or sur son front plus que les autres. Et il y a une statistique assez dingue qui nous est donnée par notre partenaire G7 Math. Alors, je ne sais pas si, Paul-Henri, vous connaissez ce compte qui travaille
Bien
avec les
sûr,
datas. Voilà, une
bien sûr.
statistique donc pour illustrer un peu plus le fossé qu'il y a entre lui et les autres. Aucun joueur présent dans le top 500 n'a un palmarès plus étoffé dans les rendez-vous majeurs en carrière que le Serbe sur la saison 2023. Il a gagné donc trois Grands Chelems et le Masters. Bon, alors évidemment, ça occulte Rafael Nadal qui ne joue pas en ce moment parce que lui, il est classé au-delà de la 600e place mondiale, mais bon, ça c'est un détail. Juste une question sur Djokovic et ce qu'il a accompli cette saison. Est-ce que ce joueur ne devient-il pas un cauchemar pour les autres joueurs du circuit?
Bah, certainement, c'est sûr que c'est un cauchemar pour les autres joueurs parce qu'ils gagnent tout, ils laissent même pas les miettes. Mais
Quelques-unes, mais.
ouais, enfin des toutes petites. C'est difficile de trouver des mots pour décrire ce qu'il est en train de faire. Effectivement, il est en train d'exploser tous les records. Tous les records. Et ce qui est impressionnant, c'est que il se satisfait pas de ça, il veut toujours plus. Il veut toujours plus. On a l'impression qu'il est né pour gagner. Voilà, il gagne une semaine. La semaine d'après, on a l'impression qu'il a oublié qu'il avait gagné la semaine d'avant. Et c'est ça qui est impressionnant, en fait, de vouloir toujours plus. Il dit qu'est-ce que ça serait une saison de, je l'ai lu, 2024 réussie. Ça serait de tout gagner, plus les Jeux Olympiques. Il n'y a même pas à dire 2 ou 3 grands chelems. C'est gagner les 4 grands chelems et les Jeux Olympiques et le Masters. C'est même pas, c'est insensé. Et effectivement, il est rentré un peu dans un état d'esprit où ben, où c'est ouais, j'allais dire un gagneur, mais c'est même pas un gagneur, il veut tout gagner, quoi. Tout gagner à tout prix. Et en fait, et c'est ça qui est impressionnant, c'est cette faculté à pouvoir se remettre en question de manière permanente, même quand il gagne. Ben, il faut continuer, continuer, continuer. Alors, je ne sais pas si c'est aussi si c'est une vengeance personnelle qu'il a par rapport au passif qu'il a eu avec Rafa et Roger parce qu'il était un peu moins aimé qu'eux, ou est-ce qu'il est comme ça depuis tout petit? Mais j'ai l'impression que les derniers mois, enfin les dernières années, ou peut-être les derniers mois, c'est cette envie de vouloir toujours plus a grossi, vraiment, pour me montrer que voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de débat, quoi. Tous les records, ils en ont plus, il n'y a que moi. Mais
Et
c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais.
on a l'impression surtout que plus il y a de l'adversité, plus ça le galvanise, c'est incroyable.
Oui, je pense qu'il a tiré aussi un trait sur le fait que voilà, qu'il voulait être aimé. Voilà, il a complètement accepté le fait que parfois il joue, eh ben, c'est un peu l'ennemi sur le court. C'est quelque chose qu'il accepte et aujourd'hui il en joue un petit peu. Et ça le galvanise encore plus en disant, mais regardez, il n'y a rien qui m'atteint. Ouais. Plus c'est difficile, eh ben, plus il arrive à trouver des solutions et à sortir vainqueur de ces moments-là.
Après, il est peut-être encore plus fort parce que là, il n'y a plus Federer et que Nadal est aussi loin des cours et que finalement, les deux seuls avec qui il y avait vraiment une rivalité sur certaines surfaces où vraiment on sentait qu'ils pouvaient perdre, sont plus là. Donc, en fait, c'est pour aussi, on peut, enfin, je ne sais pas, moi, c'est ma façon, hein, c'est ma lecture en tout cas, j'ai le sentiment que les trois étaient au-dessus malgré tout. Clairement, et qu'aujourd'hui, bah, il est seul au-dessus, et c'est pas forcément plus facile, c'est pas ce que je dis, parce que justement, c'est très très dur de réussir à rebondir tout le temps, à se remettre dedans, à garder cette motivation, la même niaque, la même faim en fait de victoire et tout ça. C'est extraordinaire de trouver les ressources physiques, mentales surtout, pour vouloir bah, ne rien laisser aux autres, mais c'est tout simplement la preuve aussi qu'il est beaucoup plus fort que les autres. Quand on voit ces deux derniers matchs au Masters, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et c'est la jeune génération. Et c'est là où c'est intéressant. Et il met quand même des fessées. Enfin, moi, je trouve que il a réponse à tout face à tout le monde aujourd'hui. Et ok, ouais, sur un match d'un gars en état de grâce, peut-être, il peut se passer quelque chose, mais même globalement, enfin, quand il joue, son niveau de jeu moyen, on n'y croit même pas en ce moment. Tellement il est fort. Tellement il est fort. C'est vertigineux.
Et Paul-Henri, est-ce que vous pensez qu'il peut être quand même une, enfin, est-ce qu'il est une source de motivation, un modèle en fait pour les plus jeunes ou pour les joueurs qui arrivent?
Ah oui, complètement. Je pense que c'est difficile de pas
Non, mais
l'avoir
parce qu'en fait,
comme
il est tellement
modèle dans.
extraordinaire en fait dans tout ce qu'il fait, dans la gestion de son physique, de son calendrier. Est-ce que ça reste une référence ultime à atteindre?
Oui, c'est une référence ultime à atteindre. C'est un exemple pour les plus jeunes par son professionnalisme qu'il a au quotidien, à vouloir aussi toujours plus. On le voit dans sa manière de se concentrer aussi. Souvent, je l'observe avant de retourner les services. Il a plein de petits mimiques, voilà, avec son regard qui fixe la balle pour être au maximum de sa concentration. Tous ces petits détails-là, effectivement, ça sert aussi d'exemple aux plus jeunes en disant, regardez, quand on leur dit, mais essayez d'être un petit peu plus rigoureux, faites un petit peu moins de fautes à l'échauffement. Ils pensent que voilà, c'est des choses qui ne sont pas vraiment importantes. Et quand ils voient des joueurs si forts le faire, mais constamment, voilà, c'est clair que ça sert d'exemple.
Est-ce que vous le voyez faire le Grand Chelem calendaire, du coup, voire le Golden Slam, carrément, tous les deux?
Ben, ça va dépendre de son physique. C'est toujours difficile à répondre de se projeter et de faire encore plus que ce qu'il a fait ju jusqu'à présent. Après, j'ai envie de dire, il faut se limiter à rien. Et avec Djokovic, ben, on ne sait jamais, il est capable de tout. C'est vrai qu'on parle de Djokovic, mais moi, je suis très impatient et très content de revoir aussi Rafa jouer. Je ne sais pas du tout à quel niveau il va pouvoir se hisser et s'il va pouvoir inquiéter Djokovic sur terre battue ou pas, parce que je pense que sur dur, ce sera vraiment quelque chose de très compliqué. Mais en tout cas, ce qui est clair et ce qu'il a dit ouvertement Djokovic aujourd'hui, c'est que lui, une bonne année, ben, c'est de tout gagner en 2024.
On se rappelle 2021, aux Jeux Olympiques, il a complètement fissuré quand même. Hein. Il avait craqué. Je pense que dans la tête, évidemment, que le physique joue, mais la tête, à un moment donné, d'aller faire ce que personne d'autre n'a jamais réalisé, en tout cas chez les hommes, je crois, c'est injouable. Donc c'est très dur. Et là, il y a un moment, il y a un truc, vous êtes happé, quoi qu'il arrive, par quelque chose qui vous dépasse aussi. Et c'est ce qui s'est quand même passé. Donc de là à dire. Oui, il est invincible, mais c'est comme Serena au bout d'un moment qui n'arrivait plus à gagner et qui pétait les plombs. Enfin, il y a un moment quand il y a des records, enfin, alors, historiques, il en a quelques-uns, hein, mais qui dépassent l'entendement, franchement, qu'on considère presque d'impossible. Et il y a un truc supplémentaire qui vient se greffer là à l'intérieur qui ne doit pas être simple quand même à gérer. Hein.
C'est le seul adversaire qui pourrait éventuellement le contester la victoire à Roland-Garros pendant les JO, parce que c'est vrai que si Nadal revient, ça sera peut-être une autre histoire, mais est-ce
Oui,
qu'il n'y a que
c'est.
lui ou est-ce que.
Bah non, on ne peut pas se limiter qu'à Nadal, parce qu'il y a les jeunes quand même qui poussent. On l'a vu les derniers mois avec Sinner qui est extrêmement en confiance. Alcaraz qui est là, même si effectivement là, ils ont pris deux fessées contre Novak le week-end dernier. Mais ils vont continuer à progresser. Et comme l'a dit Arnaud aussi, il n'y a pas que le physique, il y a aussi dans la tête comment Novak va réagir. Il va. Devoir effectivement aussi enchaîner ben, les matchs en grand chelem parce qu'il va pas énormément jouer. Je pense qu'il va se concentrer vraiment sur les tournois du grand chelem, peut-être quelques Master 1000 voilà, qu'il affectionne particulièrement. Donc voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais ce qui est sûr, c'est que si Rafa revient à un bon niveau sur terre battue, ça sera toujours l'homme à battre.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour terminer l'année prochaine?
D'être heureux?
Ok.
Non, non, mais j'espère effectivement que la rencontre de Coupe Davis va bien se passer ce premier tour en février et qu'on puisse se qualifier en tout cas pour les phases finales. C'est vrai que moi, je suis très ambitieux pour les garçons. Ouais, j'ai aucune limite pour eux, ça c'est clair, je leur ai déjà dit. Et concernant les Jeux Olympiques, voilà, aller chercher une médaille, ça serait quelque chose de fantastique, mais réalisable.
Non, mais on y croit, on y croit. Enfin, moi, je trouve qu'avec, enfin, je sais pas, c'est ce qu'on a vu cette année, ça va enfin, monter en puissance, moi, vraiment. Enfin, c'est vraiment le sentiment qu'on a. Évidemment, il y a beaucoup d'attentes, mais c'est bien d'avoir des joueurs qui affichent aussi leurs ambitions. Moi, pour revenir sur ce qu'il disait, moi, je trouve ça très bien, évidemment, que j'espère qu'un Arthur Fils, j'espère que Lucas Van Hache, j'espère que tous ces joueurs-là, ils ont dans le coin de leur tête, l'envie d'aller gagner un, voire des grands chelems. Heureusement d'ailleurs. Après, vous l'affichez comme vous voulez, ça dépend un petit peu de votre nature et de votre caractère. Mais quand vous êtes au début de votre carrière à 19 ans, si vous n'y croyez pas, c'est qu'il y a un problème. Hein. Donc, tant mieux. Et c'est très bien que ça continue. Et on sera là pour suivre tout ça de très près, mon cher Seb.
Bien sûr, puisque les Jeux Olympiques seront à suivre sur Eurosport. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Paul-Henri Mathieu d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir, merci à vous.
Merci Paulo.
Côté programme, les compétitions de tennis ne sont pas terminées. Arrive la phase finale de Coupe Davis du 21 au 26 novembre à Malaga, en Espagne. Et à partir du 28 novembre jusqu'au 2 décembre, le Masters Next Gen à Jeddah, en Arabie Saoudite. Ce sera sur l'antenne d'Eurosport, avec notamment la présence d'Arthur Fils et de Lucas Van Hache, avec donc du spectacle en perspective. Arnaud, nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à aller taper la balle. À bientôt!
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.